Seigneur, on bénisse. Il n'y a pas que maman Naomi qui est revenue. Je ne dirai rien. Mais sois le bienvenu quand même. Hein. Dieu vous bénisse richement. Soyez les bienvenus. Nous allons prier. Père céleste, Dieu tout-puissant, nous te remercions pour avoir gardé tes enfants pendant tout au long de leur voyage. Et nous te remercions aussi de nous avoir gardés, qui sommes restés. Nous avons tous passé, au loin comme au près, nous avons passé des moments difficiles, c'est vrai, mais tant au loin qu'ici au près, tu nous as gardés. Et nous t'en sommes reconnaissants. Et merci pour le fait que tout se soit bien passé à l'aller comme au retour, ainsi que le séjour. Et maintenant que tu les assistes en toutes choses, nous te demandons également de bénir tes enfants, tous ceux qui ont besoin de ta présence, de ta consolation, de ta main, qui soutient, de ton soutien et de ton appui. Que ne leur en prive pas, donne-leur-en, Seigneur, ils ont besoin. Parce qu'un appui humain, il peut vite flancher. Mais toi, tu es l'appui solide, inébranlable, quelles que soient les circonstances. Et c'est sur toi que nous voulons nous appuyer. Nous te demandons de nous inspirer ta parole ce soir. À l'écoute comme à la prédication. Et ceux qui sont malades, que tu les visites, pensons à frère Albert, que tu sois avec lui, et d'autres qui ont certainement besoin de ton attribut de médecin, que cela puisse se manifester auprès d'eux, en leur faveur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Ce soir, nous lirons dans Deutéronome 8. Deutéronome 8. Trois premiers versets. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole pour nous asseoir. Ce soir, nous prendrons le sujet afin de t'humilier et de t'éprouver. Il dit, il t'a humilié. T'a fait souffrir de la faim. C'est vrai que souffrir de la faim est une humiliation. Aller demander de quoi manger à quelqu'un, C'est humiliant. Amen. C'est humiliant. Afin de t'humilier, de t'éprouver, ce sera le sujet. Maintenant, Dieu humilie pourquoi? Bien sûr, il le dit. Il humilie et il éprouve pour savoir quelles sont les conditions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Si nous regardons bien, déjà, depuis le commencement, Dieu dit dans Genèse chapitre 2, au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous savez, l'humiliation, être humble, lorsqu'on vous humilie, c'est pour que vous deveniez humble. Quelqu'un d'orgueilleux aura souvent des problèmes. Il est orgueilleux, il a faim. À cause de son orgueil, il ne voudra pas aller demander de l'aide parce qu'il est orgueilleux. Et Dieu, dans sa nature, Dieu est humble. D'abord, dans quel but Dieu nous humilie-t-il? Il se dit, afin de voir quelles sont les dispositions de nos cœurs, mais c'est pas tout. Dans le psaume 119, David dit ceci. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et si l'homme est, si Dieu est humble, l'homme doit l'être également. Dans le psaume 119, au verset 67, je peux même prendre 66, pardon. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Alors il dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Donc avant que je ne sois humilié, je faisais n'importe quoi. Je m'égarais. Maintenant que je suis humilié, j'observe ta parole. Vous voyez ? Donc c'est le but. Et l'humilité est une vertu. C'est un attribut divin manifesté en Jésus-Christ. Dans Philippiens 2, n'est-ce pas? L'apôtre nous le dit. Philippiens, chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu. Il était Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Il n'est pas venu disant, écoutez, c'est moi Dieu. Non. Comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. Personne ne l'a humilié. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le Dieu véritable est humble. Les autres dieux ne le sont pas. Notre Dieu est tellement humble que l'homme a souvent difficile à croire en ce Dieu, alors qu'il est Dieu. Comment est-ce que Dieu, le Créateur, qui nous montre toute sa majesté au travers de la création, comment peut-il descendre comme un simple homme que l'on peut gifler, que l'on peut injurier, à qui l'on peut faire n'importe quoi, discuter avec lui, le contredire chaque fois, mais il ne vous, comment dire, il ne vous terrasse pas. Il ne vous terrasse pas, au contraire. Et toujours, en tant que Dieu humble, nous ne sommes rien devant lui, en fait. Nous sommes ses créatures. Nous ne représentons pas grand-chose devant lui. Mais nous sommes ses créatures. Et dans sa grandeur, il est attentif à nos problèmes. Il faut, pour qu'il soit vraiment, comment dire, au parfum, pour qu'il soit vraiment, comment, il soit informé de mes problèmes, il faut qu'il s'abaisse jusqu'à moi. Parce que s'abaisser jusqu'à moi pour connaître mes problèmes, c'est qu'il s'est vraiment rabaissé. C'est comme quand un enfant pleure, je pars, pour que vous voulez qu'il vous comprenne un peu, vous vous mettez à son niveau. Vous dites, mais pourquoi tu pleures? On t'a fait bobo? On t'a fait ci? On t'a fait ça? Vous vous rabaissez à son niveau afin que l'enfant puisse vous expliquer par ses propres mots ce qu'il en est. Parce que s'il commence par des grands discours, on ne le comprendra pas. Demandez à Nicodème. Nicodème, rien que le fait de lui parler de la nouvelle naissance, il était complètement largué. Ouais. Et il a fallu que chaque fois, que lorsqu'il parlait, lorsqu'il enseignait, il devait chaque fois prendre des exemples terre à terre pour que les gens comprennent. Mais essayez un peu de lire les livres de théologie. Mais on va vous sortir des mots là-dedans qui ne sont pas dans la Bible. Les événements eschatologiques. Vous voyez ? On va vous sortir, il y a plein de mots qui sont là. Quand je lis parfois certains dictionnaires, mais il y a des mots qui sont dans les dictionnaires bibliques, mais qui ne sont pas dans la Bible. Tellement ce sont des mots compliqués. Et parfois, pour les comprendre, je dois aller chez Google, demander à Google, « Google, dis-moi un peu ce que ça veut dire, ça. » Exégèse. Amen. Tu sais ce que c'est, toi, exégèse? Je sais pas. Google le sait. Moi non plus, je sais pas. Vous voyez? C'est quand on vous explique, et même quand vous prenez, ça arrive, hein, pas souvent, mais ça arrive, quand vous prenez la Scofield, les commentaires mis en marge, il y a parfois des mots difficiles qui en sortent. Il faut toujours aller demander à Google. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand Dieu nous parle, il nous parle d'une manière simple, humble. Il nous parle de pain. Nous tous ici, nous savons ce que c'est que le pain. Amen. Il nous parle de l'eau. Nous tous, nous savons ce que c'est que l'eau. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc Dieu est humble, il est attentif à mes problèmes. Parce que les grands de ce monde ne sont pas attentifs à mes problèmes. Et si je veux aller exposer cela aux dirigeants de ce pays, on va me mettre à la porte. On va même me poser la question, avez-vous rendez-vous? Comme nous sommes en Belgique, on va vous demander, mettez votre, et si, surtout n'allez pas le visiter en région flamande. En région flamande, ils vont vous dire d'écrire tout ça en néerlandais. Oh. Mais au moment des élections, quand ils passent chez vous pour demander votre voix, subitement, ils savent parler français. Psaume 113. Verset 5. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Tout à fait en haut. Et puis après, il abaisse les regards. Sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Il va jusqu'à la poussière pour retirer le pauvre. Du fumier. Vous savez ce que c'est que le fumier? Ça sent mauvais, le fumier. C'est l'herbe qui est décomposée sous l'urine du bétail et toutes ces choses-là. Le fumier. Du fumier, il relève l'indigent. L'indigent qui est dans le fumier, Dieu n'hésite pas à venir le chercher. Pour les faire asseoir avec les grands. Oh, il vous prend et il répand sur vous toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Avec les grands de son peuple, il donne une maison à celle qui était stérile. Une maison, c'est des enfants. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Conclusion, louez l'Éternel. Et l'humilité de Dieu, elle dépasse. L'ange de l'Éternel descend. Il voit Gédéon, qui, selon son propre aveu, j'aime bien le répéter souvent, Gédéon dit, je suis le plus petit, de la plus petite des familles. Hein? Mais Dieu l'appelle vaillant héros. En fait, Gédéon, en Israël, il n'avait pas voix au chapitre. Il était habitué à ce qu'on l'ignore. Il était tout petit. Dites amen à ça. Personne ne faisait attention à Gédéon. Mais il y avait un Dieu, il y a un Dieu dans les cieux qui faisait attention à lui. Tel que vous êtes là. Les gens peuvent vous mépriser. Vous pouvez vous faire penser que vous ne valez rien. Mais devant Dieu, vous valez beaucoup. Et l'ange vient, il lui dit, au verset 12 du chapitre 6 des Juges, l'ange, l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. C'est suffisant. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Quand vous allez dans Hébreux 11, vous allez voir que cette force, c'était sa foi. C'est par la foi qu'ils ont vaincu des royaumes. Amen. La foi fait triompher, dit le cantique. Gloire à Dieu. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur,
Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille n'a même pas un nom pompeux. Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Tous mes frères et toutes mes sœurs sont plus grands que moi. Amen. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Alors, moi, ce qui me dépasse, c'est ceci. Nous allons le lire, dans verset 17. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Il est petit, hein. Il dit, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Il parle à quelqu'un qui semble être un grand personnage. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Gédéon lui dit, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Donc, en d'autres termes, il dit à la personne, attends-moi ici, j'arrive. Et cette personne l'attend. Qui est celui-ci qui ose me demander, attends-moi ici? Ne t'éloigne pas d'ici, ne t'éloigne surtout pas, reste là, j'arrive, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Le grand Dieu de l'univers. Vous dire ça, mais ça dépasse. Dieu est humble. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un éphod de farine des pains sans levain. Donc, et en plus, il n'a toujours pas reconnu. Donc Dieu est descendu à lui comme un personnage tout à fait banal, qui ne frappe pas le regard. Quand vous voyez quelqu'un descendre, un ange de lumière, hein, méfiez-vous de cet ange de lumière. L'ange de lumière, méfiez-vous-en. Gloire à Dieu. Ah. Ah là 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 là. Gédéon dit, il prépara un chevau et puis il vient. Il a eu le temps de préparer un chevau. On l'attendait toujours. Hein. Il fait un éphod de farine. Avec un éphod de farine, il fait des pains sans levain. Moi, je sais le temps que ça prend, le pain de la Sainte-Seine ici. Je sais le temps que ça prend. Et il attend. L'Éternel l'attend toujours. Et il fait son pain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe. L'ange l'attendait toujours. L'ange de Dieu l'attendait toujours sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Ciel, j'ai vu l'Éternel. Je vais mourir. N'est-il pas merveilleux? Oh, gloire. Gloire à Dieu. Donc, Dieu lui dit, attends-moi ici. Et Dieu n'humilie pas pour le plaisir d'humilier. Il veut que vous soyez semblables à lui. Un serviteur de Dieu, un prédicateur, qui s'élève. Faites attention à celui-là. Parce que le premier à s'élever dans les cieux, je peux vous le montrer, hein, dans Ézéchiel 28. Celui qui a commencé, qui s'est trouvé très grand là-bas dans les cieux, Dieu l'a précipité sur la terre. Deutéronome 8, on revient dans Deutéronome 8. Verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Il parle aussi à. Et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions. Le désert, quand il est grand, c'est affreux, hein? Vous mettez beaucoup de temps à les traverser, hein? Depuis avril, depuis février, nous sommes en plein désert. Si je veux même plus loin, nous sommes en plein désert depuis juin 2023. On ne fait que traverser ce désert. Et c'est affreux. C'est ça, ça vous fait courber. Quand est-ce qu'on va arriver au bout? Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert? Il y a des serpents brûlants et des scorpions. Les scorpions sont les tourments par leurs piqûres. Dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Donc, il nous humilie d'abord, parce qu'il veut nous faire du bien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne fait pas du bien aux orgueilleux. Amen. Dieu veut me faire du bien. Pour que je puisse bénéficier de ce bien, il faut que je sois humble. Et comme par nature, je ne suis pas humble, Dieu doit m'humilier.
Amen.
M'humilier par la faim. Par les besoins. Toujours là à quémander. C'est humiliant. Mais il faut passer par là. Ensuite, pour te faire du bien. Qui dit ça? Jacques le dit également. Jacques chapitre 4. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu.
Amen.
Soyez soumis. Il vous humilie, restez soumis.
Amen.
Résistez au diable.
Oui.
Et il fuira loin de vous.
Amen.
Quand Dieu vous humilie, par un frère, par moi, ou par quelqu'un d'autre, ne commencez pas à dire, mais qu'est-ce qu'il se croit, frère François? Qu'est-ce qu'il croit, frère François? C'est le diable qui vous fait dire ça. C'est le diable veut que vous disiez ça. Laissez frère François vous humilier.
Amen.
Dieu, c'est Dieu. Comme David, quand on a commencé à l'injurier, à le maudire, hein, devant ses officiers, un officier a voulu aller lui couper la tête à celui qui parlait. David dit non, non, laisse. C'est l'Éternel qui lui a dit, maudit David. Vous voyez? Laisse-le. Si vous devez pleurer, pleurez. C'est pas grave. Mais soumettez-vous à Dieu. Dieu, si vous pleurez, Dieu verra vos larmes. Si vous avez le cœur lourd, Dieu verra la lourdeur de votre cœur. Il verra tout ça. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, c'est important. Homme irrésolu. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Je viens de vous dire que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Pour vous faire ensuite du bien. il vous élèvera. Laissez-vous humilier par le Seigneur.
Amen.
1 Pierre, chapitre 5. Ne venez pas avec une fausse humilité. Hein. Il faut que ça soit naturel. Et le naturel, là, tout homme vient avec une fausse humilité. Le naturel, cela vient de Dieu. C'est Dieu qui a transformé cette personne en personne humble. C'est comme ça qu'il a fait avec Israël. Il leur a fait traverser le désert pour leur faire rencontrer des grands hommes là-bas. Quand ils sont arrivés, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Hein? C'est comme ça qu'il faut vous voir. Amen. Mais prenez la promesse, que vous soyez comme une sauterelle ou pas, prenez-la. Gédéon, que tu sois le plus petit de la famille, de ta maison, ce n'est pas grave, mais vas-y.
Amen.
Va avec la force que tu as. 1 Pierre, chapitre 5. Verset 6. Alors, on peut lire au verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Maintenant, quand vous priez et que vous dites à Dieu, donne-moi cette humilité, sachez bien ce que vous demandez. Ça va? C'est le genre de prière que Dieu exauce. Hein? Et quand Dieu va exaucer, dans cette humiliation-là, louez l'Éternel.
Amen.
Amen. Ouais. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable.
Amen.
Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Dieu est tellement humble que quand on a des problèmes, voire même des soucis d'argent ou quoi que ce soit, vous savez qu'on a plus facile à demander à Dieu que demander à un homme. Aller demander au frère Thomas s'il n'a pas 100 euros, c'est embêtant. On peut faire, Seigneur, j'ai besoin de 100 euros. Ça, c'est facile. Hein? Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va vous envoyer chez frère Thomas.
Amen.
Et frère Thomas, peut-être il va mettre un commentaire. Mais acceptez le commentaire. Quand vous allez chez frère Thomas et que vous avez demandé d'abord à Dieu, et puis vous vous sentez poussé à aller demander ça à frère Thomas, il vous sort ça peut-être avec un commentaire. Sachez que c'est Dieu qui demande, qui dit à Thomas de vous donner les 100 euros. Mais Dieu veut que vous passiez par là.
Amen.
C'est pour votre bien. Quelle que soit la chose que vous demandez, prêtre Thomas, j'ai faim. Ah, tu as faim. C'est Dieu qui vous a demandé, va. Va chez frère Thomas, il te donnera à manger. Comment ça, frère, tu n'as pas à manger? Nous sommes le 15, tu as déjà tout fini. J'ai faim, frère. Dieu ne lui pose pas de questions. Hein. Quand vous lui dites que vous avez faim, il vous entend. Vous avez besoin de son aide, il vous entend. Amen. Et quand je dis c'est plus facile de demander à Dieu qu'à un homme, c'est surtout à un grand homme. Vous savez, je préfère vous demander à vous que qu'aller demander à un millionnaire. Sincèrement, vous avez plus de compassion que le millionnaire. Le millionnaire ne comprendra pas comment est-ce que je suis sans argent. Comment est-ce que je n'ai pas à manger dans mon frigo. Le millionnaire ne comprendra pas ça. Mais vous finirez, vous me comprendrez. Oui. ce qu'on appelle, je veux dire, le grand, entre guillemets, un grand homme. Ils ne sont pas grands d'abord pour commencer.
Non.
Eux, ils aiment passer devant vous avec le cou bien dressé et que vous, vous fassiez des courbettes devant eux. C'est ce qu'eux veulent. Mais Dieu ne demande pas ça. Donc, l'humilité a sa place. Nous, c'est une vertu que nous devons avoir. Si nous voulons bénéficier du bien du Seigneur, soyons humbles. Maintenant, vous ne pouvez pas décréter vous-même, maintenant je suis humble. C'est Dieu qui va vous humilier. C'est pourquoi il vous fait passer par ce désert. Et par ce désert, vous aurez tout un tas de problèmes. Des serpents qui vont vous mordre dans ce désert. Vous aurez des scorpions qui viendront vous piquer. Vous serez tourmenté à tout moment dans ce désert. Il y aura pas, à un moment donné, il n'y a plus d'eau. Il y a un moment donné, on vous dira, ah, il n'y a pas à manger, il n'y a plus de viande. On vous dira qu'il n'y a plus ça, il n'y a pas d'oignons. C'est dans ce désert. Le désert sert à ça. Dieu dit à Israël, j'ai fait ça afin de t'humilier. Et de t'éprouver. L'épreuve, elle aussi, elle a un but. Le but de l'épreuve, c'est de manifester aussi la réalité de nos cœurs. Quelle est la disposition de mon cœur? Dieu pousse Abraham à l'épreuve. Il dit à Abraham, Genèse 22. Deux premiers versets. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes. Je te dirai. Vous savez, le plus grand bien qu'Abraham avait là, c'était son fils. D'autres hommes, leur plus grand bien, c'est autre chose. Ça peut être un bien matériel. Dites-lui, prends ça et va mettre ça à la casse ou quelque chose dans ce genre. Vous allez voir sa réaction. Abraham va s'exécuter. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. C'est bien de le dire de la bouche, hein? Mais maintenant, Dieu sait qu'Abraham craint Dieu. Mais si Dieu n'avait pas demandé ça à Abraham, Dieu savait parce qu'il connaît la fin dès le commencement. Mais nous, on n'allait pas comprendre ça. On n'allait pas comprendre qu'Abraham craignait Dieu. Ben, il craignait Dieu. Oui, moi aussi, je crains Dieu. Oui, mais Abraham était prêt à donner en sacrifice son fils unique. Aujourd'hui, nous comprenons ça. Et nous comprenons ce que Dieu attend de nous. Il attend de nous le meilleur de nous-mêmes. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Il s'est pourvu lui-même, n'est-ce pas, du bélier pour le sacrifice. L'épreuve, nous l'avons lu tout à l'heure, n'est-ce pas, c'est dans Jacques, je crois. Purifiez vos cœurs, n'est-ce pas? L'épreuve a aussi un rôle de purification. Quand ils ont dû passer par le désert, Dieu voulait les humilier, les éprouver, c'était dans un but. Il fallait que ça soit un peuple humble devant Dieu et il fallait que ça soit, n'est-ce pas, un peuple purifié. Il peut avoir un rôle de purification donc. Psaume 66. Verset 8. Peuple, bénissez notre Dieu.
Amen.
Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancelle.
Amen.
Merci Seigneur. Pendant l'épreuve, Dieu n'a pas permis que notre pied chancelle. Dieu a conservé la vie à notre âme. Quand ça, pendant l'épreuve, parce qu'au verset 10, il dit, « Car tu nous as éprouvés. » Hein? L'épreuve ne leur a pas enlevé la vie de l'âme. « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset, comme l'argent. » L'argent, lorsqu'on le prend, l'argent en tant que minerai, il n'est pas à l'état pur. Pour le purifier, on le passe au creuset. Le creuset, c'est une espèce de four par lequel on fait passer. Et cela nous rappelle la parole de Malachie, chapitre 3. Puisqu'Israël était un peuple qui appartenait à Dieu, c'était un peuple qui devait venir apporter, offrir des sacrifices et des offrandes à Dieu, eh bien, il devait être purifié. Au verset 3, Malachie 3, verset 3, allez, il s'assiera. Donc, il va prendre une chaise, il va s'asseoir. Il ne va pas mettre et puis partir. Non, il va s'asseoir. Fondra et purifiera l'argent. Donc, il va le mettre dans le four pour qu'il fonde, mais il ne quitte pas l'endroit. Ça veut dire que là où vous êtes éprouvés, Dieu y est. Il ne vous a pas abandonné. Il est avec vous. Il s'assied, il est là. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel les offrandes avec justice. Ça, vous ne pouvez le faire que lorsque Dieu vous aura épuré. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Alors, cette purification-là, que les enfants de Juda et de Jérusalem, par laquelle ils vont devoir passer, ça va être chaud. Quand Dieu nous purifie, c'est vraiment à la fournaise. Ne soyez pas surpris pour la fournaise qui est juste là. Dieu n'est pas loin. Et l'épreuve nous apprend aussi à attendre. Parce qu'il y a eu des preuves que Dieu met devant nous, bien souvent, c'est l'attente. Vous savez que la patience, c'est une vertu. Quand vous lisez la stature d'un homme parfait, même Abraham dit, c'est que quelqu'un qui est patient, il est comme Dieu. C'est une patience divine. D'ailleurs, ça fait partie. La patience est une vertu divine. D'ailleurs, ça fait partie des fruits de l'Esprit Saint. La patience. Dieu lance une prophétie. Il dit que cette prophétie, elle va vers son terme. Elle s'accomplira. Mais je ne vous dis pas qu'elle arrivera tout de suite. Ça va tarder. Mais attendez-la. C'est Habakkouk chapitre 2. Il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une manière d'éprouver le peuple. Il a dit à Abraham, après 400 ans, je les délivrerai. Je délivrerai tes descendants. Quand la promesse approchait, le temps où devait s'accomplir la promesse approchait, Dieu était prêt. Hein? Moïse était prêt. Le peuple n'était pas prêt. Ce qui fait que la promesse a tardé à se passer. Quand Moïse est monté sur la montagne, il leur a dit « je reviens », mais il ne leur a pas dit quand. Il a fait 40 jours là-bas. Les autres, ils se sont impatientés. Ce Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Oui. Alors, ici, dans Habakkouk, verset 3, chapitre 2, « car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. » Elle s'accomplira certainement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Elle s'accomplira. Aussi, ce soir, tel que nous sommes là réunis, tel que nous nous réunissons chaque jour, demain, il y a l'action de grâce, tel que nous nous réunissons chaque jour, nous attendons sa venue. Bien-aimé, j'ai écrit en ce message en 1900. 6 ou 87, je ne sais plus très bien. Depuis 86 ou 87, ça fait presque 40 ans maintenant. Depuis ces années-là, n'arrête pas de me dire que Jésus vient bientôt, que l'enlèvement aura lieu bientôt. On attend, hein? On attend. Et je peux vous dire que la plupart de ceux avec lesquels nous attendions en ces années-là, ceux, à moins qu'ils soient déjà partis de l'autre côté, mais ceux qui sont encore ici dans ce monde, eh bien, la plupart sont partis. Ils sont toujours vivants, hein? Mais ils en ont eu marre d'attendre. Et c'est une épreuve extrêmement difficile. Ah, regardez Israël. Au 40e anniversaire en 88. 40e anniversaire. de l'établissement de l'État d'Israël par l'ONU, les gens du message ont commencé à supputer. Ah, ce sera la fin du monde. Ce sera la fin. L'enlèvement aura lieu. Il y en a même qui ont démissionné de leur boulot. Et puis après, plus rien. Mais il faut toujours attendre. Il s'est trompé de 10 ans, donc c'est pas... D'abord, c'était 77. Mais en 77, moi, je n'avais pas encore cru. Moi, je n'étais pas là. Et puis, ils s'étaient trompés de 10 ans. Ils ont dit 87 ou 88. Eh bien... Une année, une génération, c'est 40 ans. Une génération, c'est 40 ans. 48 plus 40, ça fait 88. Donc en 88, il ne s'est rien passé. Ouais. Donc, c'est une grosse épreuve. Vous qui attendez jusqu'au bout. Vous savez, l'épreuve de la foi. Avant d'arriver là, nous avons terminé avec Habacuc. Allons un peu dans Jacques, chapitre 1er. Quand Dieu éprouve notre foi, c'est pour nous donner la patience. Verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits. Parce que Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Parfait, n'est-ce pas? Et accompli sans faillir en rien. Donc, nous attendons sa venue, une venue qui tarde. L'époux tarde. Les vierges se sont endormies. Pour sa venue, nous avons besoin de patience. Parce que Dieu lui-même est patient. Il est tellement patient qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais il attend. Il attend patiemment que je me repente. Je le fais attendre comme Gédéon. Ne t'éloigne pas. Attends-moi. Le temps que j'arrange certaines autres histoires, je fasse un peu certaines choses que je voudrais faire, et puis je viendrai me repentir. Et il m'attend. Vous parlez d'une patience. Dieu lui-même est patient. Puisqu'on est dans Jacques, allons dans Jacques. Jacques, chapitre 5. L'apôtre nous exhorte. Il a écrit ça il y a plus de 2000 ans. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ouf. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. L'exemple que l'apôtre prend ici est un exemple bien, comment dirais-je, c'est bien à propos. Vous savez, le produit de la terre, il faut être patient. Juste pour vous dire, j'ai semé des tomates. Hein. Alors, elles sont là, elles ont poussé. Et puis, je vois sur Google, il y a un monsieur qui dit, si vous voulez que votre tomate rougisse vite, suivez la vidéo. Je clique et je regarde la vidéo. Alors, il donne un petit truc, il dit, vous coupez les feuilles en bas, hein, vous en cueillez deux, vous mettez ça dans un papier journal, Et puis après, enfin, dans un sac en papier, vous fermez. Ah, moi, j'ai dit, tiens. Et puis, qu'est-ce que ça va faire? Et puis, il met ça sur le côté. Et puis, il va s'asseoir et il dit, et puis, vous patientez. Vous patientez. Ah, j'ai dit, c'est une arnaque, cette vidéo. Et faut patienter. Ah, Seigneur, donne-moi la patience. C'est pourquoi l'apôtre prend la patience avec ça. Cette tomate-là reste désespérément verte. Chaque matin, vous allez pas vous regarder si elle ne jaunisse pas un peu. Non, ça ne jaunit pas. C'est toujours vert. Et puis on vous annonce le mauvais temps, la pluie, et ça n'aime pas le mauvais temps. Vous apprenez la patience avec ça. Vous apprenez. Vous aussi, verset 8, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ça va? Vous savez, Dieu lui-même affermira nos cœurs. Dans, je crois que c'est dans 1 Pierre 5, au verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Ça va? Vous n'êtes pas encore parfait. Soyez patient. Dieu le fera. Vous continuez à réagir comme avant. Soyez patient. Ayez confiance en Dieu. 1 Pierre 5, verset 10. Il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira. Il vous fortifiera. Il vous rendra inébranlable. Amen. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Par l'épreuve, donc, il a fermé nos cœurs. Et nous avons l'assurance de l'accomplissement de ses promesses. Nous devenons plus forts. Et notre confiance en lui augmente. Et l'épreuve, elle augmente aussi la qualité de notre foi. Qu'elle rend manifeste. Ça va? Donc, l'humiliation et l'épreuve par lesquelles il nous fait passer ont un but, ont un travail à accomplir au-dedans de nous, à nous rendre humbles. Nous devons chaque fois dire que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes debout. Ce qui m'a poussé à parler de ça, c'est que j'ai reçu une vidéo, un serviteur de Dieu qui parle de fidèles qui sont dans l'assemblée, disant que Dieu lui a donné tous les fidèles qui sont dans l'assemblée, je dis, ouf, quelle bénédiction. Que Dieu lui a donné ses fidèles à lui, donc ils sont à lui, et qu'aucun d'eux ne se perdra. Moi, je dis, je n'en connais qu'un seul qui a parlé comme ça, c'est Jésus-Christ. D'accord, Paul a dit que Dieu lui a donné ceux qui étaient avec lui dans le bateau, mais c'était pour leur survie dans la tempête. Hein. Mais pour ce qui est du salut, je ne connais qu'un seul homme qui a dit ça. Jésus-Christ, homme. Ce n'est pas parce que vous priez pour des malades et que les malades guérissent que finalement vous devenez... Non, vous êtes un maillon de la chaîne de Dieu. Si vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes un maillon comme un autre. Il n'y a point d'acception de personne. La maman de Jacques et Jean est venue dire, parce que l'un soit à ta gauche, l'autre à ta droite, et dit... Ça, c'est le Père qui le dit. Vous voyez ? je ne sais pas comment est-ce qu'on peut oser dire une chose pareille. Peut-être que Dieu le lui a dit, je n'en sais rien. Mais par moments, parfois, il faut être humble. Alors, à force de dire des choses pareilles, finalement, l'assemblée finit par vous idolâtrer. Pour ceux qui croient qu'ils ont l'esprit faible, ils se disent qu'ils ont un pasteur hors du commun. Mais non, c'est un homme comme vous, avec des faiblesses. Il cache peut-être, mais c'est un homme avec des faiblesses. Sinon, Christ ne serait pas venu. Il aurait été injuste pour lui. Prions le Seigneur. Je serais bien heureux que nous tous nous retrouvions là-bas. Mais cela ne dépend pas de moi. Cela dépend de Dieu. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous nous en remettons à toi et nous te remercions pour ta bonté, pour la grâce que tu nous fais. De nous, ô Dieu, de pouvoir ainsi nous assister. Te demandons, Père, de bien vouloir nous conduire pendant que l'attente perdure. À travers des humiliations, toujours en vainqueur. Le Seigneur a été humilié sur cette terre. Il n'a point bronché. Puissions-nous avoir les sentiments qui étaient en lui. Ô Dieu, ne demandons pas des afflictions sur le chemin. Si tu penses que cela est nécessaire pour nous, nous te faisons confiance, sachant que tu nous tiendras toujours par la main. Sois béni, sois loué. Bénis tes enfants ici présents. Bénis ceux qui n'ont pas pu venir. Sois avec eux. Ceux qui ont commencé les examens parmi nos enfants, que tu les aides. Que tu sois leur aide. Eux, ils n'ont pas de copion. Ils ont ton aide. Tu les aides à passer leur examen. Oral, écrit, tu les assistes. Assiste chacun. Merci pour nos bien-aimés qui sont rentrés. Merci Père, pour nos bien-aimés qui ont été éprouvés. Merci pour nos bien-aimés qui sont malades. Te disons merci pour tout cela, car au travers de toutes ces choses, nous savons que ta gloire va se manifester. La louange et l'honneur ne reviendront qu'à toi seul. Accompagne chacun de nous dans sa maison, car c'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse.